Bonjour. Le leader de l'extrême droite autrichienne démissionne du gouvernement de Vienne, filmé en train de proposer des contrats publics à une ressortissante russe. En échange de son soutien financier, le vice-chancelier Hans-Christian Strache n'avait pas d'autre choix. Le chancelier conservateur Sébastien Kurz doit s'exprimer dans l'après-midi. Au même moment, se réunissent à Milan, autour du président de la Ligue, Matteo Salvini, les souverainistes d'Europe, dont l'objectif est de devenir la troisième force du Parlement européen. Parmi eux, Marine Le Pen, dont l'objectif est aussi de devancer la République en marche. Si Macron n'est pas en tête, répète la présidente du Rassemblement national, il devra partir. Dans ce journal également, des marches anti-Monsanto partout en France cet après-midi, parfois rejointes par des gilets jaunes qui fêtent aujourd'hui le sixième mois du mouvement. Les laboratoires Boiron de Lyon évoquent la suppression d'un millier d'emplois au cas où les produits homéopathiques ne seraient plus remboursés. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, appelle le gouvernement à ne pas suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé, invité de ce journal à un économiste spécialiste des affaires de santé. En sport, les filles de l'Olympique Lyonnais en finale de la Ligue des Champions contre Barcelone, elles ont remporté les trois années précédentes. Et puis le dernier Almodovar à Cannes et partout en salle, c'est le conseil week-end d'Eva Bétan. Enfin, la météo pas terrible, peu de régions échapperont aux averses cet après-midi. Il y aura donc un absent de marque à la réunion des souverainistes à Milan, où nous irons dans un instant. Le chef du FPÖ autrichien numéro 2 du gouvernement, Hans-Christian Strache, empêtré dans un scandale, a donc présenté tout à l'heure sa démission au chancelier Sébastien Kurz, qui l'a accepté. Dans une vidéo filmée par caméra cachée, on le voit discuter avec une femme qu'il croit être liée à un important oligarque russe, une femme à laquelle il demande un soutien financier en échange de l'accès au marché public autrichien. La vidéo rendue publique hier par des médias allemands date d'avant les législatives de 2017, mais elle a semé la zizanie dans la coalition gouvernementale. Isoria Savienne.
C'est une vidéo accablante pour Hans-Christian Strache, chef du FPÖ depuis 2005 et vice-chancelier depuis décembre 2017, qui vient donc d'annoncer qu'il quittait le gouvernement et ses fonctions de chef de parti. Ce sera désormais Norbert Hofer, l'ex-candidat à l'élection présidentielle de 2016, qui dirigera le FPÖ. Difficile de faire autrement pour Hans-Christian Strache après la publication de ce document dans lequel on le voit en compagnie de son protégé Johann Gudenus échanger pendant plusieurs heures avec la prétendue nièce d'un oligarque russe. Il lui promet l'attribution de marchés publics en échange d'un investissement conséquent dans le tabloïd le plus lu d'Autriche, le Kronenzeitung, afin de lui donner une ligne pro-FPE. Strache lui propose aussi de financer la campagne du parti via une association, de manière à contourner le contrôle des autorités compétentes. C'est donc cette vidéo qui a précipité la chute du vice-chancelier à une semaine des élections européennes. On attend désormais la prise de parole du chancelier conservateur Sébastien Kurz, qui pourrait annoncé, selon la presse autrichienne, soit le remplacement d'Hans-Christian Strache au poste de vice-chancelier, soit de nouvelles élections législatives. Vienne, Isorias, France Inter.
Le patron du FPÖ autrichien ne sera donc pas de la fête aux côtés de ses amis souverainistes de l'extrême droite réunis à Milan autour du président de la Ligue et ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, avec bien sûr aussi Marine Le Pen dont les objectifs sont également nationaux. La présidente du Rassemblement national le dit et le répète, si Macron n'est pas en tête des européennes, il devra partir. Mais l'objectif des extrêmes droites, Maxence Lambrecq, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Milan, l'objectif c'est de faire du groupe où siègent déjà la Ligue, le FPÖ et le Rassemblement National, la troisième force du Parlement européen.
Oui, alors qu'ils ont aujourd'hui le plus petit groupe du Parlement et n'ont donc rien obtenu depuis 5 ans. Ici, ils veulent donc mettre en avant leurs nouveaux alliés, tchèques, slovaques, finlandais, danois et surtout les Allemands de l'AFD. Ce meeting commun, cette démonstration de force, Marine Le Pen en rêvait.
L'Europe, la vraie Europe, se construit devant vous, dans cette belle ville de Milan.
Si on en croit les sondages, à une semaine du scrutin, ils devraient ensemble décrocher au moins 80 sièges à Strasbourg.
Passer de la 8e place au Parlement européen à la 3e ou peut-être la 2e est un exploit historique. Jamais dans l'histoire du Parlement européen, un groupe aura effectué une telle montée en puissance.
Alors Marine Le Pen veut se servir de cette dynamique, prouver que son isolement en France n'est pas une fatalité. Et elle n'oublie pas ici son premier adversaire, Emmanuel Macron, qui a jugé hier son bilan européen catastrophique.
J'avais déjà eu l'occasion de dire que Emmanuel Macron semblait être frappé par le syndrome de l'enfant roi. Une sorte de conviction de surpuissance, une intolérance à la frustration, et un désir absolu de ne respecter aucune limite et aucune règle. Compte tenu de cette situation, s'il n'arrive pas en tête de cette élection, oui, il devra partir.
Une menace jugée par certains en interne excessive, réclamée. Le départ du président, c'est utopique, mais elle tient à sa revanche de l'élection présidentielle. Milan, Stéphane Beaufils, Maxence Lambrecq, France Inter.
Et c'est dans ce contexte, à une semaine des européennes, qu'en France, les Gilets jaunes fêteront ce samedi pour leur acte 27 les 6 mois du mouvement lancé le 17 novembre. Après 2 semaines de très faible mobilisation, des appels nationaux ont été lancés pour se rassembler à Reims, à Nancy. D'autres rassemblements sont prévus à Saint-Nazaire ou Besançon, à Paris. Un cortège est annoncé de la Défense jusqu'à Montmartre. Les Champs-Élysées, bien sûr, restent interdits aux manifestants. Des Gilets jaunes qui pourraient rejoindre dans leur marche partout en France, les manifestants verts qui, eux, défilent contre le Roundup et tous les produits de Monsanto, contre la filiale du groupe Bayer et au-delà, tous les géants de l'agrochimie. À Paris, la marche s'élancera tout à l'heure de la place de la République. À Toulouse, c'était ce matin une marche symbolique avec des manifestants vêtus de combinaisons de protection ou bien déguisés en abeilles, ces abeilles qui sont décimées par les pesticides. Le reportage de Stéphane Iglesis.
Ils ont d'abord distribué des tracts réclamant l'interdiction des produits pesticides qui déciment villes et champs. Puis, les militants se sont couchés par terre pour illustrer la mort programmée, induite selon eux par tous ces pesticides que nous respirons et mangeons. Jacques Dandelot, du collectif des faucheurs volontaires.
Mais c'est un infime pourcentage des victimes, j'allais dire totales ou partielles, des pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture chimique et industrielle. Le glyphosate, c'est une molécule emblématique parce que bon, glyphosate égale Roundup, égale Monsanto, égale Bayer, égale tout ce que une majorité de consommateurs ne veulent pas, ni dans l'air, ni dans l'eau, ni dans les assiettes.
Catherine, comme d'autres, s'était déguisée en abeille.
Je pense que l'abeille, pour Monsanto, c'était la meilleure figure à avoir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus l'abeille, parce qu'on est tout en train de tout perdre. Moi, j'habite en pleine campagne, j'ai un acacia en ce moment qui est en fleur et j'ai aucune abeille. Alors que normalement, ça bourdonne, dessous, c'est boum, boum, et là, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus d'amphibiens, je suis en pleine campagne, j'ai 10 hectares de forêt autour et il n'y a rien, il n'y a absolument rien.
Et il y a même un candidat écologiste qui est venu faire d'une pierre deux coups portant sur le dos son affiche pour les européennes. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decaen.
Au chapitre santé, la réaction ce matin des laboratoires Boiron après l'annonce par la Haute Autorité de Santé qu'elle recommandait un déremboursement des produits homéopathiques. Le géant français du secteur, dont le chiffre d'affaires dépend à 60% du marché français, met ses emplois dans la balance en expliquant qu'un éventuel déremboursement menacerait 1 millier d'emplois sur les 2500 collaborateurs du groupe installés à Lyon. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, est d'ailleurs lui-même monté au créneau en appelant le gouvernement à ne pas donner suite à cet avis. Et depuis plusieurs jours, on voit aussi des pétitions qui circulent dans tout le pays pour s'y opposer. Bonjour Frédéric Bizard.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste des affaires de santé. Alors on ne tranchera pas du bien fondé de l'homéopathie, hein, toujours controversée au sein du corps médical, mais dont certains médicaments sont remboursés à 30%. Leur déremboursement ferait économiser un peu plus de 100 millions à la sécurité sociale. Alors est-ce que le jeu vaut la chandelle selon vous ?
Oui, mais je crois qu'il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des Français. Il ne fait aucun doute et d'ailleurs c'est pour ça que ces médicaments ne sont pas remboursés à 65% mais à 30%, que le service médical rendu, c'est-à-dire la valeur ajoutée thérapeutique de l'homéopathie, n'est pas suffisante pour que la collectivité, l'assurance maladie les prenne en charge. Quand on regarde les critères qui sont utilisés, cela ne fait aucun doute. Cela étant dit, c'est pas pour ça qu'il faut condamner l'homéopathie, que l'homéopathie serait inutile. Hein. Il y a un tiers des Français qui disent consommer régulièrement, en tout cas utiliser régulièrement l'homéopathie, c'est probablement parce qu'ils en trouvent une utilité. Donc il faut pas, parce qu'il est justifié, parce que vous avez un budget qui est fini, parce que vous avez un argent public qui est rare, parce que cet argent public doit être concentré avant tout sur les produits les plus innovants qui vont sauver des vies lorsque vous avez une pathologie grave. On peut penser aux innovations en matière de cancérologie, avec l'immunothérapie, avec les cartes-aisselles, ces produits qui sont extrêmement coûteux et que vous ne pouvez pas vous financer, ou tout du moins vous avez un risque financier si jamais vous n'avez pas l'assurance maladie qui les prend en charge. Donc oui, il faut dérembourser l'homéopathie, mais il faut expliquer aux Français que cet argent va être utilisé pour financer des médicaments plus innovants et plus coûteux. Et là, je crois encore une fois qu'il y a un manque de pédagogie.
Mais, allô, Frédéric Bizard, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, oui, absolument.
Mais même s'il n'y a qu'un effet placebo, si cet effet permet à des gens qui l'utilisent de se sentir mieux, c'est quand même un plus.
Mais encore une fois, le déremboursement ne veut pas dire que le moindre interdiction est la moindre volonté de diminuer l'utilisation. La question, c'est est-ce qu'il faut utiliser de l'argent public, est-ce qu'il faut utiliser l'assurance maladie pour que les Français puissent continuer à utiliser l'homéopathie. La réponse à ça, c'est non. La réponse à ça, c'est non parce que un tube de granules, ça coûte à peu près 2 euros, 2,35 €. Bon, est-ce qu'il faut passer par une assurance, qu'elle soit publique ou privée, pour financer 2,35 €? La réponse est non. Donc c'est une mauvaise utilisation d'argent public que de le faire. Et d'ailleurs, je pense que la menace sur les emplois est très contestable. Pourquoi ? Parce que l'impact sur le volume suite au déremboursement est difficile à prévoir. Mais ce qu'on a vu, c'est quand on a déremboursé partiellement en 2003 de 65 à 35 et puis en 2011 de 35 à 30%, on a vu qu'il y avait toujours une hausse de la consommation de produits.
Un déremboursement n'entraîne pas une chute des ventes.
Non, vous êtes à 40-50 centimes de remboursement par tube de granules. Donc je pense, et d'ailleurs on peut même se demander si les laboratoires Boiron et les deux autres laboratoires qui fabriquent de l'homéopathie ne vont pas en profiter pour augmenter légèrement le prix. Donc je pense qu'il y aura très peu d'impact. Et puis l'avenir du développement de l'homéopathie de toute façon est à l'étranger. Vous avez des pays très importants comme le Brésil, comme l'Inde, comme le Canada, qui pour lesquels qui sont des marchés du futur pour Boiron. Donc je crois que, excusez-moi l'expression, mais ce chantage sur les emplois me paraît
mais c'est, pas justifié. C'est peut-être vrai, mais vous parlez essentiellement des classes, sont quoi, les classes moyennes ou supérieures qui sont essentiellement concernées, mais pour les classes plus populaires, disons.
On est tous dans le même bateau dans cette affaire. 99% des Français sont dans le même bateau. Lorsque vous avez une pathologie grave, vous avez des médicaments qui peuvent vous sauver la vie, mais qui sont extrêmement coûteux. Donc, et là, on a une chance, c'est qu'on est dans une vague d'innovation thérapeutique extrêmement importante pour encore de nombreuses années. Donc, des pathologies aujourd'hui qui sont incurables vont être demain incurables. Ou du moins, vous n'allez plus.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous déremboursez l'homéopathie, seules les classes supérieures pourront se l'offrir.
Non, mais est-ce qu'il n'y a que les classes supérieures qui peuvent financer 2 euros pour un traitement? Je ne sais pas, monsieur, c'est votre avis. Je ne pense pas, quand on voit les salaires moyens, je pense. Mais c'est une question de, à la limite, on pourrait souhaiter que tout soit remboursé. La question, c'est qu'aujourd'hui, avec encore une fois un budget qui doit être maîtrisé, avec un argent public qui doit être maîtrisé, il y a une question d'allocation. Si on veut une allocation optimale, il faut privilégier ce qui est le plus coûteux, c'est ce qu'il y a de plus innovant. Donc forcément, vous avez des déremboursements. Mais par contre, ce que l'on peut dire, et ça peut être un argument que pourrait utiliser Boiron, c'est que pourquoi est-ce qu'on dérembourse l'homéopathie et pourquoi est-ce qu'on ne dérembourse pas les autres médicaments qui ne sont remboursés qu'à 30%, voire à 15% pour certains, et qui sont reconnus pour avoir un service médical rendu insuffisant. Et là, on parle de quelques milliards d'euros. Donc, je crois qu'il y a un manque de cohérence des pouvoirs publics dans cette affaire-là. Il faut savoir qu'en France, il y a un retard de certain nombre de médicaments extrêmement innovants et extrêmement coûteux parce que justement, il y a un budget qui est contraint. Et donc, je pense qu'il y a besoin de remettre un petit peu tout ça sur la table et véritablement d'avoir une cohérence lorsqu'on dérembourse pas l'homéopathie.
Merci. Merci beaucoup Frédéric Bizarre, économiste spécialiste de la santé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'enquête sur l'attentat du marché de Strasbourg, l'un des complices présumés du tueur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il serait impliqué dans la fourniture d'armes à Shérif Chekat. Les 5 autres personnes placées en garde à vue cette semaine ont été relâchées. L'attentat sur le marché de Strasbourg avait fait 5 morts et 11 blessés le 11 décembre. 4 autres complices du tueur avaient été mis en examen et écroués en décembre et en février dernier. En foot, on suivra surtout ce soir la finale féminine de la Ligue des Champions. Ligue des Championnes, autrement dit, l'Olympique Lyonnais contre Barcelone. 4e finale de suite pour les Lyonnaises, qui ont déjà été titrées 5 fois, dont ces 3 dernières années, et qui seront donc largement favorites. Le match se dispute à Budapest, où l'ambiance ne sera pas si chaude qu'en finale de la Ligue des Champions masculine. En tout cas, pas encore, mais ça viendra peut-être, Cédric Guillou. Pour l'instant, il a fallu, pour remplir le stade, brader les les places.
Les billets de cette finale n'ont pas ruiné les supporters souhaitant faire le déplacement. La place la plus chère, située en tribune latérale, a coûté 3,10€ pour un adulte, 2,20€ pour un jeune de moins de 16 ans, 1,55€ seulement pour une place en virage. Pas étonnant donc d'assister à un match à guichet fermé ce soir au stadium du Ferencváros de Budapest. Plus de 22 000 personnes seront présentes pour cette finale inédite et historique entre Lyon et Barcelone. Ces places à prix dérisoire, c'est une volonté de l'UEFA, car pour la première fois, la finale de la Ligue des Champions féminine, dans son format actuel, se dispute dans une ville autre que celle de la finale masculine. Et l'Union des associations européennes de football ne voulait surtout pas que cette affiche féminine se dispute devant un public clairsemé. Budapest, Cédric Guillou, France Inter.
Voilà, les Lyonnaises sont sur le toit de l'Europe depuis plusieurs années, ce n'est sans doute pas par hasard, en tout cas, si l'on en croit le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui dit avoir su anticiper cette évolution du football féminin.
Bon, déjà, on a cru plus que les autres à cette évolution du football. Et comme nous y sommes intéressés plutôt que les autres, et qu'on a une certaine crédibilité, tous les grands clubs nous ont suivis. Et aujourd'hui, on peut dire que bon, non seulement les quatre clubs demi-finalistes de la Champions League féminine sont quatre très grands clubs sur le plan européen, mais on peut dire que toutes les grandes équipes européennes constituent des armadas pour le football féminin. Même Madrid, qui jusqu'à maintenant n'avait pas fait les efforts, nous interroge pour savoir comment arriver, parce que il voit bien que l'Atlético de Madrid est champion d'Espagne chez le football féminin, et puis le Barça joue la finale. Donc on est dans une spirale, on voit que le football féminin a comblé ses retards. C'est non seulement agréable à regarder, mais c'est très performant en termes de football.
Une équipe de Lyon qui compte quelques piliers de l'équipe de France de foot, qui fera aussi partie des favorites de la prochaine Coupe du Monde à partir du 7 juin en France. On n'oublie pas en foot la 38e et dernière journée du championnat. Tous les matchs ce soir à la même heure à 20h, notamment le champion Paris Saint-Germain qui se déplace à Reims. Allez, les conseils culture du week-end, surtout du cinéma bien sûr, Cannes oblige. Le festival, ce n'est pas seulement sur la croisette, ce sont aussi des films qui sortent en salle, comme le dernier Almodovar, Douleur et gloire. Penélope Cruz et Antonio Banderas sont à l'affiche. Peut-être le film dans lequel le cinéaste espagnol parle de lui le plus directement, Eva Bétan.
Il ne s'agit pas de sortir le clairon, ce serait un contresens. Douleur et gloire est un beau film, profond, ample, limpide, à l'image d'une des premières scènes du film, celle du bonheur total, qui restera peut-être le maître étalon d'une vie. Un petit garçon, avec sa mère, lavant le linge à la rivière, dans la lumière et le soleil. Douleur et gloire est un film de l'amour de la mère et de l'amour du cinéma, et aussi, d'une certaine manière, le bilan d'une vie avec laquelle Almodovar est en paix. Pedro Almodovar atténue les couleurs de son cinéma. Cela fait un certain temps déjà qu'il a adouci sa gamme chromatique à l'unisson de son humeur plus mélancolique. Il renoue avec Antonio Banderas, l'acteur de Leurs années folles, à qui il fait jouer un double de lui-même, un metteur en scène tracassé par sa santé, solitaire, doutant de sa capacité à refaire des films. En filigrane, le film d'Almodovar prend en compte le passage du temps. Elle est passée l'époque où l'image de deux hommes qui s'embrassent semblait exceptionnelle. C'est un film qui serre la gorge et qui fait du bien.
Dans la compétition ce samedi à Cannes, Le lac aux oies sauvages du chinois Diao Yinan et Les siffleurs du réalisateur roumain Corneliu Porumbiu. Parmi les événements du festival, la présentation ce soir du nouveau Claude Lelouch, Les plus belles années d'une vie, un homme et une femme, 50 ans après, les retrouvailles d'Anouk Aimée et de Jean-Louis Trintignant, et puis demain, la Palme d'Or qui sera remise à Alain Delon pour l'ensemble de sa carrière. Autre conseil du service culture pour ce week-end, on peut choisir de passer sa soirée ou sa nuit dans un musée, le temps d'une soirée en famille, 15e nuit européenne des musées pour découvrir les œuvres différemment. Plus de 1200 lieux sont ouverts en France, près de 2000 lieux en Europe pour des expériences hors du commun dans le monde de l'art et puis bien sûr de la chanson ce soir pour quelques dizaines de millions de téléspectateurs adeptes du concours de l'Eurovision. Le candidat des Pays-Bas est en position de favori avec également le Suédois, mais le Français Bilal Hassani peut créer la surprise. Le Le candidat français du concours de l'Eurovision en vedette américaine ce soir, c'est le cas de le dire, la chanteuse Madonna, qui n'a plus rien à prouver, 64e édition de l'Eurovision, en direct de Tel Aviv en Israël. Et puis à propos de football, un rectificatif, la 38e et dernière journée, ce sera vendredi prochain. On n'est qu'à la 37e journée, j'étais un peu pressé, le temps.
La météo avec Air France, et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un week-end sous le signe des averses et à noter de forts cumuls de précipitations attendus sur le Pays Basque entre cet après-midi et demain le milieu de la journée. Cet après-midi, peu de régions vont échapper aux averses avec par moments de l'orage, en particulier du nord de la Seine à la frontière allemande, dans le quart sud-ouest et les Alpes à la Corse. On notera également un vent d'ouest turbulent le long des Pyrénées sur le sud de l'Aquitaine et de la neige à moyenne altitude sur les Alpes et les Pyrénées. Dans des températures basses à l'ouest, avec 14 degrés au maximum cet après-midi vers Biarritz et Tarbes, 17 sur le centre Val-de-Loire et de la Bretagne au sud-ouest et 20 à 23 plus à l'est. Demain, peu d'évolution avec à nouveau pas mal d'averses et des orages. Ils seront plus marqués du nord de la Seine au Grand Est.